Oh bah c'est le printemps, c'est le printemps. Il y a de la joie, le darwinisme social est là, il y a de la joie, on va bien rigoler, il y a de la joie, on va bouffer transgénique, youpla, youpla, boum. Il y a de la joie, les patrons vous entubent, il y a de la joie, voici les emplois précaires, payez des cacahuètes, il y a de la joie, youpla, youpla, boum. Il y a de la joie, c'est la casse du service public, il y a de la joie, voici revenir l'illettrisme, il y a de la joie, youpla, youpla, boum. Alors continuez sans moi, hein, puisque c'est bien commencé. Allez, salut les gars, à bientôt.
Oh, les fonctionnaires qui veulent faire grève le 16 mai, ils sont méchants. Ils sont méchants. Ils veulent pas secourir les personnes âgées comme leur a demandé le gentil gouvernement qui a raison de vouloir les sanctionner. Youhou, rintintin, va mordre les fonctionnaires méchants. Méchant.
D'abord, je voulais le citer, puis je crois que je vais carrément vous le passer. C'est Monsieur Adler sur France Culture ce matin, le 10 mai, à propos de Monsieur Pinault.
La coupe est pleine. En effet, même si cette affaire n'est qu'anecdotique, elle est très significative. François Pinault lui-même est un entrepreneur moderne qui a toujours soutenu plutôt le centre-gauche et le centre-droit. Ses amitiés allaient de Fabius à Jacques Chirac. Il a combattu Balladur, il n'a rien d'un conservateur étroit et vétilleux, et encore moins d'un ultra-libéral. Son choix signifie simplement qu'il y a une France qui aujourd'hui est arrivée au bord de l'explosion. Une France sclérotique, une France prétentieuse, une France tournée vers elle-même, une France qui se croit irremplaçable et qui se trompe. Cette France, excusez-moi de cette petite élément de propagande, c'est bien sûr la France du non. Avant de remporter le référendum, à Dieu ne plaise, les partisans du non peuvent se féliciter d'une belle victoire. Ils ont fait partir les collections les plus intéressantes d'art contemporain qui existaient sur notre sol, vers le Palais Grassi à Venise. Après tout, aujourd'hui, grâce à Schengen, c'est encore un peu la France, et pas tout à fait.
Voilà, donc d'après Monsieur Adler, les partisans du non ont même le don de la téléportation. Allez, salut, on aura vraiment tout entendu, hein.
Oui, c'est Françoise là qui vient d'écouter ton émission et dont la suite des messages sur le répondeur et qui pousse un petit coup de gueule parce que c'est sympa effectivement. Qu'est-ce qui se passe si on dit non à la Constitution? C'est toujours le traité de Nice qui s'applique et c'est pas bien. À quoi ça sert de dire non? Eh ben ça sert à dire non. Voilà, parce que moi j'en ai ras-le-bol de dire oui alors que je suis pas d'accord. Jusqu'où on va aller dans cette société? Enfin, ça tient pas debout, je veux dire, au bout d'un moment, je sais bien qu'il faut dire oui, parce que ça serait mieux ceci, cela. Mais merde, quand au bout de 10 ans, on n'est pas d'accord, et ben quand au bout de 10 ans, on n'est pas d'accord, on dit pas oui. Quand on n'est pas d'accord, au bout de 10 ans, on dit non. Voilà. Et puis ça aura les conséquences que ça aura. Mais enfin, je sais pas, au bout d'un moment, faut être cohérent dans la vie. On peut pas dire oui à quelque chose qu'on pense que c'est non. Voilà. C'est aussi con que ça. Allez, bisous.
C'était pour répondre au monsieur sur le répondeur aujourd'hui qui disait « Mais si on vote non, il y aura le traité de Nice. » Juste pour rappeler que le traité de Nice est inclus dans le traité constitutionnel puisque le traité constitutionnel récapitule tous les traités antérieurs. Donc le traité de Nice, il en fait partie. Donc qu'on vote oui ou non, on en bouffera quand même. Sauf que si on vote non, ce sera pas constitutionnalisé. Et puis un deuxième truc, c'est Cassin qui parlait des chiffres du chômage. À ma connaissance, en France, la NPE classe les demandeurs d'emploi en 7 catégories. La catégorie 1, ce sont les gens qui n'ont pas travaillé dans les dernières semaines, qui cherchent un emploi à plein temps, en CDI, et qui sont disponibles immédiatement. Et ça, il y en a à peu près 2 millions et quelques, et c'est la seule et unique catégorie de demandeurs d'emploi qui sont retenus dans les statistiques officielles et par les médias, y compris France Inter, ce qui permet d'annuler en réalité les 6 autres catégories de demandeurs d'emploi. Par exemple, les demandeurs d'emploi des DOM-TOM sont dans une catégorie à part, et ainsi de suite, il y a différentes catégories. Donc actuellement, il y a à peu près 4 150 000 demandeurs d'emploi inscrits à la NPE, et non pas 2 millions et quelques. Et c'est un peu pareil pour les chiffres du RMI. On nous dit qu'il y a 1 million, aux alentours d'un million de RMistes, alors qu'en réalité, le RMI est un revenu familial. Ce qui signifie qu'un couple avec 2 enfants qui a le RMI, ça fait non pas un RMiste, mais un foyer au RMI. Ça fait 4 personnes qui en vivent ou survivent. Donc en réalité, il n'y a pas 1 million de RMistes. Il y a 1 million de foyers au RMI, ce qui fait qu'il y a aux alentours de 2,5 millions de gens qui vivent ou survivent du RMI. C'est le genre d'infos qui sont jamais données par, bah, par France Inter ou les télés ou les grands médias en général. Voilà, salut.
Merci pour ces messages et merci pour le message concernant une nouvelle facétie d'Alexandre Adler. D'ici à mon retour à Paris, là je suis à Saint-Pétersbourg, mais d'ici à mon retour à Paris, c'est-à-dire pas plus tard que demain, eh bien je pense que le non, ceux qui vont voter non, vont être des antisémites. C'est un argument qui manquait si toutefois il n'est pas déjà en circulation. Donc retour de Saint-Pétersbourg aujourd'hui, le micro et le magnéto rempli de témoignages autour du thème du théâtre au goulag, des reportages qu'on vous fera entendre dans les semaines qui viennent, et aujourd'hui le génocide arménien. C'est l'année de la commémoration de ce génocide, avec tous les débats que cette histoire entraîne toujours, notamment en Turquie, mais pas seulement. Et on a, il y a quelques années, c'était Zoé Varier qui avait rencontré Zepour, Madame Zepour. On a diffusé ce témoignage tout à fait unique, tout à fait bouleversant. Et je vous propose, à l'occasion de cette commémoration donc en cours du génocide arménien, de retrouver Zepour, qui était né en 1905. Voilà. Autre message, on n'a pas beaucoup de place aujourd'hui, pas beaucoup de temps. Autre message sur le répondeur, et qui est aussi l'euro-pondeur, ne l'oubliez pas, 01-56-40-37-37, j'allais l'oublier.
Aujourd'hui, à 11h du matin, devant la mairie de Rueil-Malmaison, il y a une manifestation. C'est Esso qui licencie. ExxonMobil a fait 5,5 milliards de dollars de bénéfices au premier trimestre 2004 et 7,8 milliards environ de dollars toujours au premier trimestre 2005. Et pour la même période, ExxonMobil annonce 800 suppressions d'emplois en France, y compris au siège qui se trouve à Rueil. Et ce matin, il y a 80 personnes au maximum qui manifestent leur mécontentement devant l'hôtel de ville. Et encore, peut-être qu'il faut enlever les agents de sécurité qui sont autour. Les vieux autour sur les bancs regardent le spectacle et commentent un peu désabusés sur l'avenir du monde. Et les enfants jouent au ballon, ne comprenant pas encore dans quel monde ils vivent, eux. Sur les photos accrochées à la façade de l'ancienne mairie, Hussein Hanoun et Florence Aubenas se sourient encore et toujours. Et puis moi non plus. Des fois, je ne comprends pas très bien dans quel monde je vis.
Il faut savoir aimer. Est-ce que j'ai dit des bêtises?
Hein?
Est-ce que j'ai dit des bêtises?
Bah non, je crois pas.
Non.
Non.
Ça va servir à quelque chose?
Ah oui.
De quoi?
À dire ce qui vous est arrivé, votre histoire.
Moi, j'ai une histoire.
Bah oui, vous avez une histoire.
Et qu'est-ce que ça sera, cette histoire?
Eh ben, c'est l'histoire que vous m'avez racontée, votre histoire à vous.
Une roman, ça sera une roman.
Non, ça sera une émission.
Une émission, hein.
Une émission de radio.
Palef, Inchpesek, c'est Daniel Mermetian et Zoé Varierian, là-bas, si j'y suis.
Flight number 2, arriving from New York.
Arménie, je ne connaissais pas. Nous avons entendu seulement le nom. Nous entendions, nous adorions, mais il n'y avait pas Arménie pour nous. Maintenant, il faut parler le français d'abord. Avec mon français cassé.
Il est bien votre français.
C'est bien, oui.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Qu'est-ce que vous voulez que je parle?
Zépour, Metspakian, 95 ans, né en 1900 à Trébizonde. C'est avec elle qu'on va passer cette heure. Zépour, Madame Digine Zépour, a vécu le génocide des Arméniens en 1915. Alors chez nous, les Arméniens sont arrivés dans les années 20, à la suite du massacre perpétré par les Turcs, et au cours duquel la moitié de la population arménienne de Turquie a disparu. Alors quelques repères sur l'Arménie, quelques indications. C'est le, il faut rappeler, et les Arméniens sont très fiers, l'Arménie est le premier royaume chrétien. C'est situé entre la mer Noire et la mer Caspienne, vous voyez à peu près, hein. Et au cours de l'histoire, on va aller vite sur l'histoire des Arméniens, qui est évidemment très riche. C'est un peuple qui a toujours été menacé, placé sous le joug de puissances régionales diverses. Mais on va aller vite au 19e siècle pour tenter d'expliquer schématiquement les raisons de cette émigration. Au 19e siècle, l'Arménie historique est partagée entre trois puissances. On trouve un petit peu la même histoire que pour la Pologne d'hier. Entre trois puissances, l'Empire russe, d'une part, la Perse, d'autre part, l'Iran actuel, et puis l'Empire ottoman. Et on peut dire comme ça qu'il y a trois Arménies, enfin une Arménie en trois morceaux. Mais il y a encore un bout d'Arménie, la Cilicie, dans le sud de la Turquie, qu'on appelle aussi la Petite Arménie. Alors les Arméniens sont des chrétiens d'Orient, on l'a dit, du Moyen-Orient, et sont plutôt, enfin il y a une, très très divers leurs emplois, mais enfin c'est quand même très souvent des marchands assez prospères à cause de la situation dans laquelle ils se trouvent entre l'Europe, l'Asie, l'Orient et l'Occident. Alors, du côté de l'Empire ottoman, les Arméniens sont groupés à l'est de l'Anatolie. Ce sont des montagnards plutôt rustiques, qui sont très attachés à leur religion chrétienne, et c'est ça qui les définit, avec leur langue très importante, c'est ça qui les définit aussi. Ils sont entourés plutôt, disons, de musulmans. Certains sont descendus de leur montagne pour venir et y crever la faim. Ils sont venus à Istanbul pour fuir la misère. Mais à Istanbul, il y a aussi une puissante bourgeoisie arménienne de négociants, d'artistes, d'intellos, toute une élite qui a des liens avec l'Occident, avec l'Europe, avec Marseille, par exemple. Déjà, eh oui. En 1878, c'est la fin de la guerre russo-turque. On dit russo-ottomane encore. Et les Arméniens, du côté de l'Empire ottoman, à travers un mouvement d'émancipation, revendiquent leur indépendance face à la domination ottomane. La réponse, c'est des massacres très durs, très très durs, en 1894 et 1896. On avance le chiffre de 2 millions de victimes de ces massacres perpétrés contre les Arméniens, avec le concours des Kurdes. Il y a un certain Sultan Rouge qui passera 300 000 Arméniens à lui tout seul par les armes. Et c'est quand même, ça correspond un peu au, si on veut faire des analogies, avec les pogroms dont les Juifs sont victimes dans d'autres parties de l'Europe de la part des Russes. Ce qu'on appelle les jeunes Turcs arrivent au pouvoir, ils laissent espérer des réformes, mais c'est l'inverse qui se produit. Et en Cilicie, dans cette petite Arménie que j'ai évoquée, les Arméniens refusent d'être turquisés et 30 000 sont exécutés. En 1914, sous la pression internationale, l'autonomie, c'est pas l'indépendance, l'autonomie, est accordée aux régions autonomes de l'Empire. C'est-à-dire que certaines régions arméniennes ont une autonomie. Lorsque la guerre de 14-18 éclate, l'Empire ottoman se range du côté de l'Allemagne et le peuple arménien se trouve alors coupé en deux. Les hommes sont incorporés dans chaque camp adverse, russe ou turc. Et des groupes arméniens côté ottoman attaquent les troupes turques qui combattent la Russie. Et prétextant que les Arméniens de Turquie sont a priori favorables aux Russes, le gouvernement ottoman entreprend de déplacer ces populations d'Anatolie arménienne vers la Syrie et 1 500 000 personnes sont concernées par cette déportation. Le 21 avril 1915, c'est le début du massacre des Arméniens. D'abord, arrestation des représentants de la communauté, puis déportation des populations arméniennes vers la Syrie et l'Irak. Mais en fait, de déportation, ce sera un massacre par famille entière, torture, barbarie, horreur. Beaucoup périront dans cette déportation aussi de maladies, de faim, de soif dans les déserts d'Anatolie et de Syrie. Et c'est ces gens qu'on va retrouver en France plus tard. Et parmi ces gens, il y avait Zépour.
Après, c'était Exode. 1915, on nous a fait Exode et massacre en même temps.
C'est-à-dire qu'on est venu vous prendre.
C'est-à-dire après, nous avons compris qu'ils voulaient nous anéantir, la Turquie. Ils voulaient nous finir. Parce qu'il y avait la terre que nous demandions de temps en temps, jusqu'à maintenant même. Alors, pour ça, il a peur, il voulait nous détruire, toujours. Il cherchait une occasion.
Parce que vous vouliez avoir une terre à vous et une indépendance.
Oui, on voulait. Malgré que nous étions comme les Turcs, nous parlions comme la langue maternelle de la Turquie. Nos enfants allaient à l'école turque aussi pour apprendre la Turquie. On commençait comme ici, maintenant. La même chose. Mais ici, c'est la France. Là, c'était Turquie.
Ça, c'est le cadre un peu historique. Mais maintenant, on va rentrer dans l'histoire et la mémoire de Zéphir, Madame Zéphir.
Nous étions une famille très aisée, très bien. Et j'étais l'aînée de 5 enfants. Et après, tout le monde était dans la guerre. On nous a fait exode. On a ordonné de toutes les familles arméniennes, dans 5 jours, préparer et partir. Partir où? À Mossoul, Bagdad. C'était loin, à pied, 2 mois marcher. Avec le soleil, avec le faim, avec le soif, surtout le soif. Et au mois de juin, juillet, où on a massacré déjà. Nous avons marché 2 mois, enfants, la femme enceinte, tout, les vieillards, tout. Enfin, c'était misère, quoi.
Mais quand l'exode a commencé, quand vous êtes parti avec vos...
Non, je n'étais pas chez mes parents. Quand je suis partie, j'étais seule avec les autres. Alors je pleurais, je ne savais pas que faire, où aller. J'avais juste tablier de l'école et un manteau. J'avais 14 ans.
14 ans.
Quand je suis arrivée à la groupe, je commençais à pleurer et j'ai entendu Zépur, mon nom, criait quelqu'un. Je croyais que c'est le soleil est venu. C'était une cousine de ma mère. Et puis après, je suis allée seule avec eux. Mais un mois après, j'ai trouvé ma mère dans un autre groupe, toute nue, une chemise de nuit, les cheveux, il n'y a pas peigné pour payer. Alors, vous savez qu'est-ce que j'ai senti? Je sentais comme une mendiant, ma mère. Et j'étais très bouleversée. Alors, comme ça, nous sommes ensemble, je continuais nos chemins. J'avais 2 frères, 2 sœurs, plus petits que moi. Après 8 jours, à peine, mon frère est mort, 8 ans. Le matin, je suis levée, il est mort à côté de moi. Je dis, maman, Kurken est mort. Il n'a pas pleuré, ma mère. Elle a dit, c'est bien fait, vous êtes sauvés. Après quelques jours, c'est ma mère, morte ou pas morte, je ne sais pas. Et nous sommes tombés dessus pour pleurer. Et le gendarme est venu, allez, marchez. Et en pleurant, nous avons quitté. Ma mère était morte ou pas morte, je ne sais pas. Allez, marchez, marchez, marchez. Qui est mort, il reste. C'est fini, oui. Ma mère était chaude quand nous avons quitté et parti. On n'a pas laissé même pleurer un peu. Mon père, je n'ai jamais vu, je n'ai pas vu mon père. Combien de jours j'ai marché, je ne sais pas. À la fin, nous sommes allés dans un champ pour massacrer. Je ne sais pas où c'est. On nous a fait nus, même les culottes. Vous avez compris? D'un côté, tchat, pat, avec des bâtons, on frappait. On frappait, vous entendez, un cri. J'étais debout, un bâton, pop.
On vous a tapé sur la tête.
On frappait comme ça. Moi, je croyais que c'était lumière partout, après sombre, et puis j'ai tombé. Et je vois qu'ils ont commencé à frapper à ma soeur de 5 ans. J'ai dit tout de suite, faites semblant comme une mort, je dis.
Faites semblant d'être mort.
Non, de mort, allongé à côté de moi, puis il n'expirait pas. Ah, les mots échappent, vous savez, quand je pense tout ça, les mots échappent. Mes blessures étaient très grandes, ici et ici.
Vous aviez des blessures sur le front et sur la tête. Elle monte ses cheveux. Vous avez encore les cicatrices.
Comme ça, c'était comme ça. Trois morceaux étaient ma tête. Et les Arméniennes, après, ils sont guéris. Ça a duré plus qu'un an. Il n'y avait pas tout ce qu'il faut pour me soigner. Je prenais de l'eau coulante, comme ça. Et il y avait des poux, il y avait des verres, il y avait de tout ce que vous voulez. Salpé. Rire et pleurer son soeur et frère. Après, la nuit est tombée, nous avons resté comme ça, plein de sang. J'ai entendu une voix. Moi, je deviens musulmane, amenez-moi. Moi, je deviens musulmane, amenez-moi. Une fille que j'ai connue, la voix. C'était notre voisine. Alors, j'ai pris courage. Il y avait la lune seulement. Je dis, moi aussi, je deviens musulmane. Amenez-moi aussi. J'ai eu peur quand elle va partir, cette fille. Je resterai seule avec ma soeur. J'ai eu peur, je dis, moi aussi, je deviens musulmane, amenez-moi. Devenir musulmane, qu'est-ce que c'est, je ne sais pas. Moi, j'ai peur, je suis arménienne, ça, il est là. Personne ne peut pas prendre, je pensais. Personne ne peut pas prendre mon arménité. Après, je suis assise comme ça, toute nue. Un homme était venu, un Kurde est venu lever. Je dis, je suis toute nue, je ne peux pas. Il a pris une chemise sanglante de sur une mort. Il m'a donné, j'ai pris comme ça devant moi. Et je suis levée, et ma soeur toute nue. Elle s'est toute frappée derrière comme ça. Tout était gonflé après, noir.
Son dos?
Le dos de ma soeur. 5 ans, vous savez. Et après 6 mois, elle est morte. Tout ça, j'ai pu rêver et vécu. Hein? Et encore, il y a tant de choses que j'ai oubliées. Je n'ai pas oublié, mais je n'ai pas le temps de penser. Et après, où j'étais. Je suis perdue. Toutes les choses comme photo maintenant devant moi, ils viennent, je ne sais pas où je suis à ce moment-là. Devant moi, cette chambre, tout.
Vous revoyez tout?
Oui, je revois toujours. Souvent, je pleure la nuit, parce que ça vient devant moi, c'est le tableau, tous les morts, tout ça. À votre âge maintenant, il ne faut pas écouter tout ça et impressionner.
Non. Si, il faut.
Oui, pour mûrir. Mûrir, mais c'est dur. Moi, j'ai mûri, vous croyez? Encore, je suis folle fille, la petite folle fille. On ne mûrit pas. On a le caractère. Qu'est-ce que c'est? Ça reste toujours. Toujours. Si vous êtes gay ou si vous êtes enthousiaste, ça reste. Vous cassez, vous êtes cassé, mais quand même, une petite lumière reste. Mais j'ai beaucoup pleuré. Regarde mes yeux, je gonflais comme ça, les lèvres comme ça, gonflées. J'ai trop pleuré dans ma vie. Trop.
S'est passé après, une fois que le monsieur est venu, il vous a sauvé?
Monsieur, oui, elle a donné une chemise, j'ai pris, je suis levée, nous étions 7 blessés. C'est Kurde, quelques hommes sont pris à nous, 7 personnes, ils parlaient leur langue, nous ne comprenions pas. Si on parlait turc, la langue turque, nous comprenons, mais la langue kurde, nous ne savions pas. Ils ont parlé entre-temps. Et puis, quand nous sommes arrivés à une rivière, ils nous ont dit, lavez dans la rivière votre sang, et puis nous attendons. Ils sont quittés à nous, ils sont partis. Ils n'ont pas attendu à nous. Ils ont vu que nous sommes très blessés, sans. Qu'est-ce que nous allons faire, tout ça? Ils ne travaillent pas. Ils nous ont quittés dans la rivière, ils sont partis. C'était nuit, vous savez. Il faut rire, il ne faut pas pleurer. C'est la prestige arménienne. Nous avons sorti de l'eau, nous avons entré dans un champ de blé, nous avons resté dans les blés.
Cachés,
jusque le matin. Le matin, nous avons vu que de loin, sous les arbres, il y a des lits. Des Kurdes, ils dorment dehors l'été. Je savais que les Kurdes, ils sont très hospitaliers. Alors, je dis que montrez-moi le chef, la maison du chef. À midi, nous avons trouvé cette maison. Ils sont donnés à manger. Après, on nous a partagé. Le lendemain, ils sont partagés avec les autres Kurdes qui ont besoin de gens.
Pour travailler?
Pour travailler, oui. J'ai tombé malade. Typhus. Maintenant, je sais que c'était typhus. Fièvre, je buvais que de l'eau. Il n'y avait rien à manger déjà. Ils étaient pauvres gens. Et je parlais toute seule. Et blessure, il est là. Et je n'ai pas mort. Dieu nous garde pour que je vous raconte. Alors ils ont vu que je ne serais rien du tout. Ils m'ont donné à gouvernement avec ma soeur. Gouvernement, elle nous a mis dans la prison. Et nous avons resté 40 jours là. Et on donnait une peine noire par jour. Nous n'étions pas coupables, notre faute était d'être arménienne. Et puis après 40 jours, on nous a amenés à gouvernement encore. Là, on nous a fait musulmans. Il faut dire « La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah ». Juste que j'ai appris ça, et peut-être j'ai mis une demi-heure. Dites « La ilaha illallah ».
La ilaha illallah.
Inlallah, Mohamed Rasulullah.
Laïlaïla, Mohamed
Rasulullah. J'ai dit couramment, je suis devenue musulmane. On a mis mon nom Zubide et ma petite sœur aussi Zelka. Nous sommes devenus turcs.
Thank you.
Je suis retournée. Notre maison était habitée par les Turcs. C'était la nuit. Je suis allée par le bateau sur mer Noire. Nous sommes arrivés la nuit, minuit. Et c'était nouvel an, je crois. J'ai sonné. Une dame avec petite lampe est venue. Je dis que je suis la fille de la maison et je n'ai pas une place pour dormir. Veuillez m'accepter, je dis. Il est monté, peu après il est descendu, il a dit alors entrez. Nous avons resté par terre, il n'y a pas lit.
Vous avez dormi par terre.
Oui. Après, le matin, j'étais dépêchée pour visiter la maison. Je voulais inspirer l'air de la maison. Et puis, ma mère était, quand elle était jeune fille, était sur la mur, dessinait un œillet. Et il me disait que quand j'avais 16 ans, j'ai dessiné cet œillet. Alors, je voulais voir cet œillet. Et j'ai pleuré quand j'ai veillé sur le souvenir de ma mère et toutes les choses qui passaient dans les rues, comment ma mère est morte. Petit à petit, j'ai visité toute la maison, j'ai inspiré l'air. Après, j'ai pleuré un peu, j'ai resté, j'ai traîné un peu ici, là, j'ai sorti. Vous savez quels souvenirs ce sont? Raconter, c'est facile, mais sentir, c'est dur.
On a envie de choper tous les mots de cette femme, Madame Zépour, Metzpakian. Tout ce qu'elle dit est magnifique et beau. C'est vraiment ciselé par 95 années de vie, 80 ans de souvenirs à revoir, à repenser, à nous apporter tout ça, ce cadeau extraordinaire qu'elle nous fait aujourd'hui de nous raconter sa vie et ses pensées qui sont magnifiques, soit des toutes petites choses quand elle dit rire et pleurer son sœur et frère, ou bien des choses que nous sommes en train de partager. Donc les Arméniens, les rescapés, vont essayer de survivre en Syrie, au Liban, et ça va être difficile parce que les conditions dans ces pays-là sont très difficiles. Et enfin, en 1922, ils arrivent en France, la Société des Nations les attribue aux pays qui ont besoin de main-d'œuvre. Alors les Arméniens vont arriver en masse à partir de 1922. Ils vont arriver d'abord à Marseille, ils vont vivre là, survivre dans des conditions très difficiles. Il y a encore beaucoup d'Arméniens à Marseille, et ils vont vivre là dans des baraquements, dans des bidonvilles, ça va être vachement dur. Et puis petit à petit, ben, ils vont monter, ils vont essayer de trouver du boulot à Aix, à Valence, très nombreux, il y a toujours une communauté importante à Valence, à Lyon, et puis à Paris, où ils vont s'installer dans des endroits comme Alfortville, comme ici les Moulineaux, et parmi eux, alors les arrivées avec retour impossible sur les... Ils sont apatrides pour la plupart, vont s'échelonner jusqu'en 1932, et c'est en 1931 qu'arrive notre Zépour.
De Turquie, je n'avais rien à faire, je n'avais personne. Pourquoi rester?
Quand est-ce que vous arrivez en France?
En France, 1930-31.
Vous partez en bateau?
En bateau, je suis allée d'abord en Allemagne, parce qu'en Allemagne, j'avais un oncle, le frère de mon père, mais je voyais que je commence à gêner. Je ne peux pas manger. Je suis charge.
Vous étiez une charge.
J'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, qu'est-ce qu'il faut faire? J'avais une cousine qui était en Roumanie. Il est venu en France pour travailler. Alors, il m'a dit, si quelqu'un sait prendre une aiguille, elle peut gagner sa vie.
Si quelqu'un sait prendre une aiguille, il peut gagner sa vie.
Je ne savais rien, mais quand même, j'ai dit, au moins, j'ai une cousine. Nous serons ensemble, qu'est-ce que nous serons? Alors, je suis venu en France.
Qu'est-ce que vous aviez dans vos bagages?
Rien, de ça, rien, je n'avais rien.
Vous aviez de l'argent?
Non, un peu, peut-être quelque chose. Je n'avais pas grand-chose, non.
Et vous aviez une adresse, celle de votre cousine?
Oui, je suis venue comme ça. Elle vivait dans une chambre et une cuisine, trois personnes. Et encore moi, quatre personnes, une chambre et une cuisine. À Clamart.
À Clamart.
Je couchais avec la petite fille de 12-11 ans et mari et femme ensemble dans une chambre.
Et alors, vous vous êtes mise à travailler?
Non, pas tout de suite, mais d'abord, j'ai commencé à voir qu'est-ce qu'on fait, les autres. Je ne savais pas prendre aiguille, je ne savais rien du tout. En regardant les vitrines, en regardant les habits, tout ça, petit à petit, j'ai appris à coudre toute seule. Maintenant, je peux faire cette tailleur toute seule. Je mettais sur la chaise la machine, moi, je restais sur mes valises. Comme ça, je travaillais. Nous avons travaillé très dur. Très, très dur.
Il y en a à qui ce petit bruit rappelle beaucoup de choses. Beaucoup d'enfants ont été bercés par le bruit de ces machines à coudre dans certaines banlieues, arméniennes ou non. Et aujourd'hui, les enfants qui ont entendu ça étant petits se trouvent quelquefois, ils sont médecins, ils sont avocats, ils sont aussi quelquefois journalistes.
Nous gagnons un peu, nous faisions économie. Nous sommes les Arméniens, ils sont habitués d'économiser, arranger, de bonnes journées et mauvaises journées. Nous sommes habitués pour ça.
Ah.
Mais maintenant en Arménie, vous voyez, il n'y a rien à manger, mais personne ne mange pas de pain. On s'arrange. Le peuple arménien est fait pour souffrir. Il est fait pour souffrir. Chaque Arménien, il ne savait pas travailler avant. Chez nous, les femmes ne travaillaient pas. Donc, chacun se débrouillait toute seule.
Vous parliez français en arrivant en France?
Très peu. Très, très peu, parce que j'ai pris 3 ans dans le son. J'ai appris à écrire, lire, mais très peu.
Alors, comment vous avez fait ici?
Ça me suffisait.
Mais quand vous aviez besoin de vous promener, de sortir de Clamart, comment vous faisiez?
Nous ne pensions pas des choses comme ça. C'est trop tôt. Aller sortir, promener. Vous ne pouvez pas imaginer les Arméniens, comment ils ont travaillé durement quand ils sont arrivés ici. Ni sortie, ni cinéma, ni rien. Rien que travail. La nuit et le jour. Je vous jure. Chacun d'abord mangeait.
Comment se comportaient les Français avec vous?
D'abord, une espèce de peur, il y en a. Une peur, il y en a. Enfin, nous sommes étrangers, nous sommes petits, nous sommes pauvres, nous sommes ignorants. Nous sommes très, très attentifs de ne pas faire une gaffe.
De ne pas se faire remarquer.
Oui. Et puis, alors, les Français n'étaient pas habitués d'avoir d'étrangers. Ils étaient presque méchants, quelquefois. Tout de suite, ça l'étranger, allez à votre pays, souvent. Mais nous ne disions rien. Quelquefois, je disais, c'est vous qui êtes étranger. Lancez-vous, allez à votre pays.
Alors, quand est-ce que vous avez commencé à mieux vivre, à vivre mieux, un peu plus aisé?
Après mariage, marié, tous les deux travaillaient. Voilà, mon mari.
Vous auriez pu vous marier avec un homme pas arménien?
Je n'ai pas pensé. Tout ça, je n'ai pas pensé. Et à ce moment-là, peut-être non. À ce moment-là, peut-être non.
C'était important qu'il soit arménien?
Et oui.
Pourquoi?
Et pour les Français aussi. Je connais des familles que leurs enfants mariés avec arméniennes n'étaient pas contents. Ça, c'était à cette époque, ça, on était plus patriotiques. C'est maintenant changé. Tout le monde a changé, nous aussi.
Vous aussi?
La moitié, nous sommes mariés avec les Français.
Il y a eu des mélanges. Maintenant, on se mélange.
Une race viendra plus solide. plus bien. Et je sais comment c'est. Vous peut-être.
Est-ce que vous vous êtes construit une maison?
Jamais je n'ai pas voulu avoir maison. Jamais. Parce que tout ce que nous avions, combien de fois nous avons quitté, nous ne pouvons pas installer nulle part.
Parce que vous aviez peur d'être obligé de partir?
Nous ne voulions pas avoir les choses. Parce que toujours avoir et laisser avoir et voler, ça nous a embêtés. Même ici, nous n'avons pas acheté maison. Je n'ai pas maison. Quitter la maison encore de cette souffrance, c'est une souffrance aussi. Alors je ne veux pas avoir ce chagrin encore. Qui sait qu'est-ce qu'il va arriver? Demain, qu'est-ce qu'il va arriver? Qui sait? Qui sait? Un ordre, allez, hop, qui sait? Enfin, je n'étais pas solide sur mes pieds, quoi.
Mais est-ce que vous vous sentiez en sécurité ici, en France? En sécurité?
Oui. Je suis tranquille comme la maison de mon père. Vous avez compris?
Oui, j'ai compris.
Comme les Français, jamais je n'ai pas senti étranger. Les premières années, oui, parce qu'on nous disait, ça les étrangers, allez à votre pays, souvent. Mais après, maintenant, je me sens comme une Française. Arménie, la France était plus près à nous que Arménie, parce que nous ne connaissions pas. L'Arménie, les chansons, tout, nous aimons, mais nous ne savions pas le goût. Vous avez compris? C'était un rêve que nous aimions.
Est-ce que vous aimeriez retourner là en Arménie encore?
Arménie ou Turquie?
Arménie.
Arménie, et oui, c'est-à-dire s'il serait normal, le temps normal, je voudrais naturellement que je voudrais aller vivre là.
Et pourquoi vous ne l'avez pas fait en 1960?
Il n'est pas sûr là maintenant. Il n'y a pas mangé. Pauvre pays.
Le pays était pauvre.
Pauvre. Comment aller? Comment penser même? Maintenant, je pense que si ça serait bien, je voudrais aller. Mais malheureusement, nous sentons tellement bien en France que souvent, ça ne viendra pas. Je dis malheureusement, vous voyez.
Oui, vous vous sentez tellement bien en France que ça serait difficile de partir d'ici.
Oui, nous aimons la France comme vous aimez.
De la même façon que nous.
Oui. On attache comme leur pays. On ne pense pas à autre chose.
Ah voilà, donc votre pays pour vous, c'est la France ou l'Arménie?
Tous les deux.
Les deux?
Tous les deux, je sens.
Vous êtes et française et arménienne?
Je suis tellement bien en France comme mon pays que je ne dis pas que je suis étrangère.
Donc vous avez deux amours?
J'ai deux amours, mon pays et Paris, voilà. Et cette chanson, Joséphine Baker, il a bien senti et chanté. Il a senti ça, comme moi je sens. Je ne quitte pas France. La France, personne, il n'y a personne qui n'aime pas dans le monde, tout le monde. Même j'étais tout petit, j'aimais. Seulement le nom de France français, je vous jure, il y a quelque chose dedans que ça vous attache.
Quoi?
Je ne sais pas, mais c'est sympathique, c'est chaud, c'est à vous. On dirait que ce n'est pas étranger, français. Vous avez compris qu'est-ce que c'est?
C'est joli.
Les Français, c'est autrement que des autres pays. Quand je dis anglais, je ne sens pas la chose. Quand je disais anglais ou américain, non. Américaine, je pouvais aller 10 fois. J'avais des parents là-bas. Jamais, je n'ai pas voulu aller voir Amérique. Mais la France, j'étais comme ça. Ah, Paris, comment c'est Paris? J'imaginais.
Et comment vous imaginiez Paris?
Quand même, j'ai eu déçu quand je suis venue.
Ah
oui? J'ai très déçu, surtout quand Saint-Lazare est venu, il pleuvait, c'était tout noir partout. Je croyais que je viendrais au paradis. Alors j'ai eu déçu.
Ils l'ont aimé, cette France, les Arméniens. Ils l'aiment toujours. Il y a plein d'histoires comme ça. Les mamies qui écoutaient la radio à Issy-les-Moulineaux et qui parlaient pas un mot de français, sauf que quand c'était Aznavour. Alors là, il fallait absolument écouter Aznavour. Et quand c'était De Gaulle, il fallait écouter De Gaulle. Et alors les enfants disaient, mais enfin, comme, pourquoi tu l'écoutes De Gaulle puisque tu comprends pas un seul mot de français? Et la mamie répondait, oui, mais lui, c'est un brave garçon. Il est pas comme les Turcs, il veut pas nous tuer.
Il y a des familles turques que j'embrasse comme une sœur. Nous embrassons l'un l'autre comme un Français. Mais entre-temps, il y en a une grosse blessure que il est là toujours.
Elle ne guérit pas.
Elle ne guérit pas, oui.
Est-ce que ça veut dire que vous avez pardonné?
Pardonner, non. Je ne pardonne pas cet exode. Impossible de pardonner, impossible. Humainement, oui, il faut pardonner. Comme chrétien, il faut pardonner, mais on ne peut pas. C'est très dur. On ne peut pas oublier. Non, si je pardonne, mais pas oublier. Une autre génération sont venues qui n'est pas coupable. Même si ça serait coupable, à quoi sert? À quoi sert? Oui, ce qui est arrivé, est arrivé. Peut-être ils prennent de modèle pour ne pas faire répéter.
La même chose.
Oui, ils comprennent que c'est mauvais.
Peut-être.
Autrement, on ne peut pas oublier. Les Juifs, on peut oublier tout ce qu'on a fait. Impossible. Si personnellement, peut-être vous pardonnez comme ça. Mais non, il y a quelque chose qui crie.
À l'intérieur.
Oui. On ne peut pas oublier, on ne peut pas oublier.
Où est-ce que vous avez trouvé toute votre force?
Force?
Oui.
Quelle force? S'il y avait une force, c'est Dieu qui a donné. Moi, qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je peux changer en ce monde? Rien. C'est Dieu qui m'a donné la tête d'abord pour réfléchir. Autrement, je n'ai pas autre chose à dire que Dieu. Et n'est-ce pas?
Comment on dit Dieu en arménien?
Dieu Astvats. Dites.
Astvats.
Astvats. Atsvats. Dieu. Vous êtes allé à l'église arménienne?
Non, mais je suis allée en Arménie.
Vous allez en Arménie, mais je ne sais pas. Aller à Etchmiadzin.
J'ai été à Etchmiadzin.
Vous êtes allée à Etchmiadzin?
Oui,
oui. C'est joli.
C'est très beau.
Oui, mystérieux.
Et je suis allée au lac Sévan aussi.
C'est vrai, moi, j'ai lavé mes pieds dedans.
Ce que j'aimais bien, c'est de voir le mont Ararat.
Mon Ararat ou de loin, oui.
Avec la neige.
Mais nous avons aussi ici les Alpes.
Où?
En France. Chez nous. Et oui, chez nous. Est-ce que j'ai dit bêtise?
Hein?
Est-ce que j'ai dit des bêtises?
Bah non, je crois pas.
Non.
Non.
Ça va servir à quelque chose?
Ah oui.
De quoi?
À dire ce qui vous est arrivé, votre histoire.
Moi, j'ai une histoire.
Bah oui, vous avez une histoire.
C'était une nouvelle diffusion de Zepour l'Arménienne, un reportage de Zoé Varier. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis. À la technique ce soir, Michel Thomas et Antoine Viossa, l'équipe de Là-bas si j'y suis, Antoine Chao, Yann Chouquet et Pascal Pascariello, chef de répondeur Christophe Imbert. Si vous souhaitez réagir à cette émission, vous avez le répondeur de Là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37.